Nzamba.
Nzambira samirana.
Vous écoutez la radio Nzamba Agateka Kawe, c'est l'heure du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. Le Burundi a célébré ce 1er juillet le 59e anniversaire de son indépendance. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a dans son message à la nation indiqué que cette indépendance est une réalité au Burundi. Affirmation balayée d'un revers de la main par la coalition politique d'opposition, Sefor Arusha. Le défenseur des droits de l'homme Germain Rukuki, qui était emprisonné depuis plus de 4 ans, a été libéré hier. L'association Action chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT s'en réjouit. Elle interpelle le gouvernement burundais à libérer d'autres prisonniers victimes des détentions arbitraires. Et en politique, la permanence du parti CNL de la commune Ruhororo à Ngozi a été saccagée hier soir par des inconnus. Les militants de ce parti dans cette commune dénoncent des menaces à caractère politique. Voilà pour le sommaire de ce journal. À la présentation, Valérie Mucho, madame, monsieur, soyez les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Ce 1er juillet 2021, le Burundi célébrait le 59e anniversaire de son indépendance. Dans son discours à la nation, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a fait savoir que le Burundi est réellement indépendant. La bonne gouvernance et la justice sont aujourd'hui une réalité au Burundi, a-t-il affirmé. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du chef de l'État à cette occasion.
Le premier pilier de l'indépendance, c'est d'abord avoir un pouvoir respectueux, capable de prendre des décisions qui s'imposent pour éviter l'anarchie et le désordre. C'est pour cela que nous mettons un accent particulier sur la sécurité du pays et de son peuple, mais aussi asseoir une justice équitable. Le deuxième pilier, c'est la bonne gouvernance. Elle permet à chaque citoyen de se sentir tranquille dans son pays. Dans cette optique, au niveau de la prévision budgétaire pour cette année, nous allons privilégier les grands projets d'envergure nationale, bien élaborés et surtout faire un suivi très rigoureux en utilisant les nouvelles technologies qui nous permettront de s'assurer si les fonds alloués ont été utilisés correctement. Le troisième pilier, non moins important, c'est la cohésion nationale des Burundais et enfin la souveraineté nationale. Les Burundais doivent se prendre en charge sans tendre la main à l'étranger.
La radio Nzamba a tendu le micro à nos auditeurs. Ils remettent en cause la réalité d'une quelconque indépendance de leur pays au regard de la situation sociopolitique qui prévaut. Je vous propose d'écouter leur réaction.
On se souvient que le prince Ouersole disait qu'il souhaitait que les Burundais aient une indépendance, mais aussi que les Burundais soient fiers lorsqu'ils ne seront plus maltraités par les dirigeants. Donc aujourd'hui alors, c'est une bonne occasion de prendre une décision pour qu'il n'y ait plus de maltraitance, d'une partie de population. Il faut qu'il y ait l'unité entre les Burundais, surtout que les dirigeants aujourd'hui prennent une décision de considérer la population comme un pied d'égarité.
Même si donc les Corons ont quitté le Burundi, est-ce que parmi nous, dans le pays interne, est-ce qu'il n'y a pas encore l'existence du colonialisme? Chaque peuple doit avoir la parole, doit avoir le droit de dire ce qui ne marche pas et ce qui marche bien.
Nous avons entendu le discours du président où il est revenu sur les méfaits de la colonisation et où il a montré que les Burundais ont été maltraités. Et alors aujourd'hui, on peut se demander si réellement les Burundais sont indépendants, s'il n'y a pas des restes des comportements qui sont affichés par les différentes autorités, où il y a l'opération qui est maltraitée, alors qu'elle est maltraitée par...
Parole à la classe politique à présent. Du côté de l'opposition, l'indépendance du Burundi est loin d'être une réalité sous le régime du parti CNDD-FDD. C'est le constat fait par la coalition politique Sefor Arusha. Emmanuel Ndereyimana, le porte-parole de cette coalition, explique que l'indépendance du Burundi n'est pas une évidence, car le parti au pouvoir ne cesse de traiter les Burundais comme un peuple esclave, en emprisonnant illégalement des gens innocents. Pour lui, le parti CNDD-FDD devrait demander pardon au peuple burundais. Écoutez.
Ce que nous constatons aujourd'hui, même un aveugle peut être témoin. Aujourd'hui, les Burundais sont malmenés, maltraités, plus que de l'époque de la colonisation. Les exemples sont clairs, parce que vous savez que lui-même ne peut pas s'auto-évaluer et dire réellement ce qui se passe. Qu'il laisse les gens qui observent du jour au jour les rapports, vous les connaissez, qui pointent du doigt tout ce qui ne va pas au Burundi. Quand il nous parle de la bonne gouvernance, nous constatons en matière de la gestion du caisse de l'État, quand il vote le budget de l'année, par exemple quand il montre l'argent destiné à l'entretien de l'avion présidentiel, et que nous savons que le Burundi n'a pas d'avion, alors tout ça c'est la malversation à outrance, mais ils osent dire qu'ils sont dans la bonne voie pour le bien de la nation. Ils ont détruit des radios des Burundais eux-mêmes. Ce n'étaient pas des colons qui ont détruit ces radios. Le pouvoir en place a des milliers et des milliers de prisonniers aujourd'hui, emprisonnés par des Burundais injustement pour leur opinion. Est-ce que vraiment aujourd'hui, on peut aller là et croiser les bras, se vanter comme quoi les Burundis et les Burundais sont indépendants? Loin de là, nous sommes encore vraiment loin de cette réalité. Les Burundais ont encore besoin d'une indépendance totale en mettant à terre le pouvoir actuel qui les menace.
La célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale se déroule dans un contexte sociopolitique particulièrement difficile. Selon le mouvement patriotique MAP Burundi, Libera Nibashira Kandi, le porte-parole de ce mouvement, se réfère aux institutions qui sèment la division au sein de la population burundaise et le manque de l'indépendance de la magistrature. Libera Nibashira Kandi.
On ne peut pas parler de l'indépendance tant que au Burundi, il y a des Burundais qui sont condamnés à fuir le pays. Il y a des centaines de milliers de Burundais qui sont en exil et qui souffrent dans les camps des réfugiés. Il y a des déplacés intérieurs qui, depuis 1993, croupissent dans des conditions déplorables, dramatiques, et qui sont pourchassés au jour le jour par ceux qui sont supposés les protéger. Est-ce qu'on peut parler de l'indépendance au moment où il y a des centaines de milliers de prisonniers politiques? Je citerai deux cas. Il y en a bien sûr d'autres. Il y a la jeune dame qui a un bébé. Deuxième exemple, Fabien Banchigalino, le parlementaire qui a eu le courage de dire tout ce que tous les Burundais pensent tout bas, de dénoncer la barbarie du système CNDD-FDD. Mais comme Guagasore a été emprisonné plusieurs fois suite à ses convictions, et Banchigalino a été emprisonné exactement dans les mêmes conditions que le prince Louis Guagasore. Est-ce que l'on peut parler d'indépendance au moment où les écoliers n'ont pas de pupitres, n'ont pas de banc, n'ont pas d'enseignants? Qu'avons-nous fait les 59 ans? Si jamais le prince Louis Guagasore et bien d'autres revenaient sur terre, que dirions-nous au prince Louis Guagasore? Serait-il fier de la situation dans laquelle se trouve le Burundi? Malheureusement, chaque année, nous chantons l'hymne national, la main sur le cœur, mais la réalité est tout autre. Quelle honte!
Dans la ville de Rumonge, les marchés et tous les commerces ont été fermés depuis le matin. L'objectif était de contraindre la population à se rendre dans les festivités marquant la célébration de cette indépendance. Des festivités qui se sont déroulées au stade de Vivigiro. Le point avec Jacob Sigomana.
Le stade de Vivigiro est situé dans la localité de Mbuga, dans la zone de Kizuka, à quelques 4 km de Rumonge en allant vers Bujumbura. Ce qui a irrité certains habitants est qu'ils étaient interdits de vaquer à leurs activités alors que la cérémonie se déroulait loin de la ville de Rumonge où ils vivent et travaillent. Ceux qui osaient servir leurs clients étaient obligés de le faire en cachette. La route Rumonge-Bujumbura était fermée à la circulation et occupée par la police. Les véhicules n'étaient pas autorisés d'y circuler. Le transport en commun n'a commencé qu'après 10h30. Mais les marchés, boutiques, restaurants, salons de coiffure et différentes autres activités sont restés fermés. Les habitants de la ville de Rumonge, frustrés, demandent que cette attitude de les empêcher de travailler pour les contraindre à aller dans telle ou telle cérémonie officielle s'arrête. Selon eux, la plupart vivent au jour le jour grâce aux petits commerces qu'ils exercent et les ont empêchés équivaut à faire souffrir les familles des citoyens lambda.
Inzamba. Dans le domaine de la justice, c'est la satisfaction dans le camp des défenseurs des droits humains au Burundi après la libération de Germain Rukuki qui venait de passer 4 ans en prison. Maître Armel Niongere salue un pas franchi vers le respect des droits humains. Le président de l'association Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT, appelle à plus d'efforts pour que d'autres prisonniers politiques et des victimes des détentions arbitraires soient traités dans le strict respect de la loi. On écoute Maître Armel Nyongere.
Et nous nous réjouissons de la libération de Germain Rukuki après avoir injustement passé 4 ans en prison. Et nous félicitons aussi à tous ceux qui se sont impliqués pour sa libération. Mais nous profitons de cette occasion pour demander la libération des autres prisonniers politiques qui croupissent dans différentes prisons illégalement. Et certains d'entre eux ont été libérés par la justice, mais restent en prison. Et d'autres ont purgé leur peine, mais ne sont pas libérés. Et les autres sont informés par la justice que les dossiers ont disparu. Et nous demandons à ce que toutes ces personnes soient libérées et pour se conformer à la loi.
Et puis la permanence du Parti Congrès National pour la Liberté CNL de la province Ngozi a été vandalisée par des inconnus. Cela s'est passé hier soir en commune Ruhororo de la province Ngozi au nord du pays. Les militants de ce parti dénoncent une intolérance politique. Ils appellent par ailleurs les autorités administratives à sévir contre les auteurs de tels actes. Les précisions avec Vanessa Mohiteka.
Les militants du CNL en commune Ruhororo sont préoccupés par la reprise d'actes de vandalisme sur les permanences de ce parti. L'année dernière, le même bâtiment situé sur la colline Guitamo avait été la cible de malfaiteurs qui n'avaient pas été identifiés selon le reçu de 100 militants du parti dirigé par Agathon Gwasa.
Ces actes ignobles sont perpétrés par des gens qui sont mal intentionnés, qui n'ont pas encore compris les principes démocratiques, dont la tolérance pour des idées partiques divergentes. L'année passée, les écrits et logos du parti avaient été effacés par ces malfaiteurs.
Ces actes d'intolérance politique doivent cesser selon le même partisan d'Agathon Gwasa.
Nous demandons alors à l'administration, à la justice, au service de sécurité, de prendre les choses à main pour couper court avec cette situation. Envie effectivement de couper court aux intérêts politiques qui s'observent ici et là.
Nous n'avons pas pu avoir la réaction de l'administrateur de la commune du Hororo. A précisé que lundi dernier, une autre permanence du parti CNL a subi le même sort sur la colline Gitwe. C'est dans la commune Muhuta en province du Mongi. Quelques semaines avant, deux autres permanences du même parti avaient été détruites à Wulinga et Gakuyo. C'est toujours dans la commune Muhuta. Là non plus, les auteurs de ces actes n'ont pas été identifiés.
Des administratifs à la base dans la province de Makamba disent ne pas être contents du petit salaire qu'ils perçoivent. Ce maigre salaire serait à l'origine de la corruption à travers des pots de vin qu'ils demandent aux administrés. Le point avec Josephine Jones Ngunziman.
Selon des informations recueillies chez certains des administratifs contactés, les salaires octroyés aux administratifs comme les élus collinaires et les chefs de zone sont dérisoires. Ils expliquent que le chef de colline reçoit une somme de 25 000 francs, par exemple en commune Nyanzara, qui est 5 000 francs pour ses 4 collaborateurs. Les chefs de zone reçoivent un salaire mensuel de 100 000 francs. Selon eux, il ne peut pas joindre les deux bouts du mois avec ce salaire. C'est à partir de ce salaire insignifiant qu'il retire les frais de déplacement et la ratio lorsqu'il se présente dans des réunions prévues chaque semaine au chef-lieu de leur commune, selon toujours ses administratifs contactés. Pour les chefs de zone, ils expliquent qu'ils sont obligés de retirer dans ce maigre salaire les activités d'entretien des bureaux où ils exercent leurs activités quotidiennes. Ils se demandent pourquoi les administratifs à la base ne sont pas rémunérés de façon équitable sur tout le territoire national. Ils donnent l'exemple des administratifs qui exercent les mêmes fonctions en mairie de Bujumbura qui sont rémunérés une somme autour de 400 000 francs. Ils expliquent que certains d'entre eux font recours au pot de vin pour parvenir à joindre les deux bouts du mois. Les habitants victimes de ces pots de vin demandent au ministère ayant l'administration territoriale dans ses attributions de prendre la question en main afin de les soulager. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas pu joindre le porte-parole du ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire pour avoir sa position sur la grogne de ses administratifs à la base dans la province de Makamba.
Inzamba, Le dossier des déplacés du site de Gasegni dans la commune de Rango, province de Kayanza, et les biens ces déplacés demandent à l'évêque de Ngozi d'intervenir dans le conflit qui les oppose avec la paroisse de Gisegni. Le curé de la paroisse a déjà rendu public un communiqué interdisant ces déplacés à exercer leur commerce ainsi que l'élevage. Ces déplacés y voient du harcèlement pour les contraindre à quitter le site qui se trouve dans la parcelle de la paroisse. Les détails avec Delicia Kamikazi.
Cette nouvelle mesure du curé de la paroisse Gasegni Zaina Ondelei vient après un conflit ouvert entre les habitants du site et le vicaire Manasseh Habarugida il y a 2 semaines. Selon les habitants du site, la paroisse aurait engagé un acharnement contre eux pour qu'ils quittent le site. Cependant, pour eux, ce n'est pas étonnant parce que le curé de cette même paroisse a activement participé dans les massacres des membres des familles de ces rescapés de la crise de 1993.
Nous avons été informés au cours de la première messe à la paroisse de Gasegni, les activités commerciales et d'élevage sont suspendues. Nous considérons que c'est un harcèlement contre les habitants de notre site. Partant de l'histoire de notre site, lors de la crise de 1993, le curé de notre paroisse, qui s'appelait Mohamed Gaye Pascal, il est connu pour avoir soutenu les massacres contre nos familles. Pire, selon le témoignage de nos ancêtres, il a même pris la machette pour massacrer les membres de nos familles. Alors, quand nous voyons ces prêtres en train de nous provoquer, nous pensons que c'est une façon d'enfoncer le clou dans la plaie.
Ces rescapés lancent un appel pressant à l'évêque d'Ngozi afin qu'il sorte de son silence, qu'il se prononce sur ce conflit en tant que responsable du diocèse d'Ngozi. Sinon, son silence signifierait son soutien à ce harcèlement.
Nous demandons à l'évêque de conseiller le curé et son vicaire de Gasegni de nous laisser en paix, qu'ils sortent de son silence en vue de plaider pour nos habitants, qu'ils se souviennent que nous sommes les enfants de l'Église, qu'ils conseillent à ses prêtres de nous laisser vivre en paix. Ceux qui veulent rentrer le font même maintenant. Nous aussi, quand il sera temps, nous allons rentrer.
Ces rescapés demandent également la libération d'un habitant de ce site emprisonné à Kayanza. Il a été accusé de vouloir tirer sur le vicaire Manasseh, ce qui est démenti par ses cohabitants du site. Nous n'avons pas encore eu la réaction du curé de la paroisse Gasegni et l'évêque d'Ngozi. Quant au vicaire Manasseh, il s'est déjà exprimé. Il a indiqué que la paroisse n'a pas l'intention de chasser ses déplacés.
Et si ce terrain appartient à la paroisse de Gisegni, cette paroisse devrait soumettre la question au gouvernement burundais qui à son tour pourra chercher un autre terrain pour se déplacer. C'est du moins l'avis de Vital Nshimirimana, le délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, Force sans sigle. Pour lui, ces déplacés internes ne peuvent pas retourner sur leur colline d'origine parce que les conditions sécuritaires ne leur permettent pas. Écoutons Vital Nshimirimana.
Nous sommes inquiets sur le cri quand nous entendons qu'il y a un conflit qui naît entre une paroisse et un site de déplacés. Dès lors que nous savons le rôle est joué par l'Église catholique du Burundi et d'autres institutions similaires dans l'accueil et les appuis, les assistances données aux déplacés de guerre durant plusieurs périodes. Et nous savons également les appuis multiples donnés par l'Église catholique du Burundi à ces sinistrés qui ne sauraient jamais être contredits par un conflit quelconque né entre une paroisse et un site de déplacés. Et ces personnes ne reviennent pas dans leur colline d'origine parce que les conditions ne le permettent pas. Donc il revient à l'État du Burundi, le cas échéant, à résoudre le conflit entre l'église ou la paroisse et le site des déplacés, de sorte que les déplacés ne soient pas encore une fois déstabilisés et que la paroisse puisse, par exemple, obtenir un autre terrain de taille similaire à celle donnée aux déplacés de guerre.
Les agriculteurs de la province de Kayanza s'indignent contre la mesure du ministère de l'Agriculture portant fixation des prix fixe des denrées alimentaires. Ces agriculteurs demandent au ministère de les laisser négocier librement les prix avec leurs clients. Le point avec Trifine Kaniwabo.
Les habitants de la province Kayanza disent n'avoir pas bien accueilli la mesure prise par le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage qui fixe des prix de denrées alimentaires produits localement. Certains de ces habitants qui se sont entretenus avec la radio Inzamba font savoir que les prix fixés sont très inférieurs par rapport à ceux appliqués au marché aussi bien par les agriculteurs que par les commerçants. Ces agriculteurs donnent l'exemple du prix d'achat de la pomme de terre par kilo se situe entre 800 et 900 francs, puis le prix de vente va de 1000 et 1300 selon la qualité. Celui du riz se situe entre 1500 et 1600 francs, ce qui fait que le prix de vente varie entre 1800 et 2000 francs selon toujours la qualité. S'agissant des oignons blancs et rouges, ils s'achètent à 1800 francs et se vendent à 2000 francs le kilo. Les commerçants des denrées alimentaires précisent que ces prix varient suivant les saisons. Ils disent que parfois ils baissent ou ils montent. Ces commerçants disent aussi ne pas comprendre comment le gouvernement se mêle dans la fixation des prix des denrées alimentaires aussi longtemps que le ministère ne maîtrise pas le capital utilisé pour arriver à la récolte. Ils s'étonnent que des prix de denrées comme les régimes de bananes, de l'huile de palme et de patates douces ne sont pas fixés. Les agriculteurs demandent au gouvernement de laisser la liberté aux agriculteurs de négocier les prix avec les commerçants ou tout autre consommateur, surtout qu'il y a variation des prix selon les saisons et qu'à ce moment, c'est la loi de l'offre et de la demande qui entre en jeu. Rappelons que le ministère de l'Agriculture a pris depuis ce mercredi la mesure de fixer les prix sur les denrées comme le riz, le haricot, la pomme de terre et les oignons, des prix à respecter rigoureusement.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et à la prochaine.